RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG vous salue, bonjour à tous, c'est parti pour 3 heures de discussion, 3 heures de débat bien sûr avec vous au 32 Sens. Nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui dans les GG, l'enseignante Barbara Lefebvre, bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
Nous sommes avec Abel Boyi, l'éducateur, bonjour Abel.
Salut les amis.
Un petit nouveau dans la bande, il vient faire un tour de piste avec les GG, Jean-Philippe Cartier, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Chef d'entreprise investisseur, fondateur du mouvement Le Pouvoir de l'Action, investisseur tous azimuts dans plusieurs secteurs d'activité.
Très large. Du digital à l'hôtellerie, à la restauration, et très large.
Combien de salariés?
Pas mal, 7-800.
7-800, ouais, ah, c'est bien.
Les participations diverses et indirectes, ouais, un peu plus peut-être.
Eh bien justement, Jean-Philippe, actif sur les réseaux sociaux, dans le mouvement patronaux, et puis avec ce mouvement, le pouvoir de l'action, va pouvoir parler en toute liberté de tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui, de ce qui fait notre société. Mais avant de plonger dans la canicule, avant d'évoquer les sanctions dans l'affaire Liana, et tu nous parleras aussi de ce qui sera sûrement au cœur de la campagne électorale, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Français, comment rapprocher le brut du net. Lunette, je vous propose quand même de saluer nos bleus.
Mbappé va être en position de frappe, pied gauche. Kylian Mbappé qui ouvre le score. Attention, le ballon repris, Mbappé. Le doublé pour Kylian Mbappé. Dembélé la frappe, et le but. Ousmane Dembélé. C'est terminé. La victoire de l'équipe de France, 3-0 face à l'Irak.
Ah les amis, et on a un courageux ici, c'est Abel Boyi, parce qu'il a quand même fallu 3h50 au bleu pour s'imposer 3-0 face à l'Irak. Alors c'est pas 3h50 de match, mais il y a eu une mi-temps interminable parce qu'il y a eu de gros orages. Exactement. Et aux États-Unis on ne plaisante pas avec les précautions et la prévention. La mi-temps a duré 2 heures, on a le doublé de Mbappé, on a Dembélé, on a la première place du groupe qui se jouera vendredi. Et t'as les yeux en capote de fiacre, comme disait ma grand-mère, mon
non,
cher.
Non, ça va, t'as tenu. Non, mais je suis boosté par la victoire et... confiant dans le fait qu'on peut aller très loin. Gagner, je ne sais pas, parce que je vois que l'Argentine aussi démarque très fort. Ouh. Avec Lionel Messi.
5 buts déjà.
Ouais,
ouais. Il est là, Messi.
Haaland, pas mal avec la Norvège aussi. Il a 4 buts comme Mbappé. Mais on voit que Mbappé, il assume enfin son rôle de capitaine. C'est quelque chose qui est intéressant. Et le fait d'être aux États-Unis, lui-même, il a dit un pays où on n'a pas peur d'affirmer son ambition. Il est souvent critiqué pour ça en France. Comme tous ceux qui réussissent. Les gens qui réussissent en France sont prétentieux, arrogants. Faut leur couper la tête. Eh ben, là-bas, il se sent bien. Il a même un rapport plus fusionnel avec le public, en fait. Donc, les bleus, et je pense qu'on va le faire.
Et puis, c'est bon pour le moral des Français, c'est bon pour le moral du pays aussi. Il a plus la France avant. Non, mais c'est vrai, là, c'est le chef d'entreprise.
Mais de manière claire et nette, tout ce qui est bon pour la France, on prend, surtout vu les actualités récentes. Voilà, donc, c'est un moment de réunion, de communion. Et même moi, si je suis pas un grand footeux, je suis la Coupe du Monde avec plaisir et je souhaite que la France aille le plus loin possible. Je crois qu'on est tous alignés là-dessus.
Oui, Barbara.
Non, je vais pas commencer déjà. Non, mais bon, je vais vous dire, oui, le pain et les jeux, quoi. C'est-à-dire que, on a les deux pieds dedans, on sait plus où on va, le mur de la dette, le mur de l'insécurité, le mur de tout. Ah, mais c'est pas grave, on va s'étourdir, s'ébobir avec le poupousse babal, et puis c'est bien. Non, mais c'est comme si c'était fait pour, depuis la Rome antique. Moi, je trouve ça très bien. Occupons-nous. Non, mais il faut bien se distraire.
On a besoin de respiration, on a besoin de temps.
Ça ne veut pas dire qu'on oublie les problèmes quotidiens, mais c'est bien d'avoir un petit temps d'oxygène où on peut se rassembler. Mais bien sûr.
N'allez pas annuler la Coupe du Monde.
Oh, non, moi, si on n'était que moi. Mais non, mais enfin, c'est très bien. Ça s'appelle le pain et les jeux. C'est bien.
Allez, justement, on va laisser la Coupe du Monde de côté sans oublier la prime de match, parce que vous savez que sur RMC, il y a la prime de match et à chaque but marqué, et il y en a des buts, il y a 500 euros sur la prime de match. La semaine dernière, c'est 67 500 euros qui ont été gagnés. Et là, avec les buts marqués, on est à 36 500 euros ce matin. Pour vous inscrire et gagner la prime de match, vous envoyez but par SMS au 732-16, but par SMS au 732-16, et ensuite, à tout moment, dans toutes les émissions d'RMC, on peut vous appeler et il suffit de donner le montant de la prime de match. Aujourd'hui, c'est 36 500 euros. Si vous le donnez, cette somme est pour vous, et comme c'est du gain de jeu, ça échappe à l'impôt. De manière légale, hein. Donc, rassurez-vous, ça échappe à l'impôt, mais de manière légale. Donc c'est 36 500 euros, ça vous permettra de réaliser un rêve, de changer de voiture, peut-être de faire des travaux de rénovation dans votre logement, surtout par les temps qui courent. Justement, la canicule, parlons-en. On est sur un plateau, hein. C'était prévu jusqu'à jeudi avec des records de température qui vont être battus. Hier, on a eu 40,9 du côté d'Angers, 42 à Saintes en Charente-Maritime, 41,9 à Bordeaux. La valeur la plus haute de la journée, ça a été à Châteaumeillan dans le Cher avec 43,3. Qu'est-ce qu'on entend depuis qu'on a appelé à être prudent? On entend des employeurs qui appellent à rester en télétravail dans la mesure du possible parce que c'est interdit, désolé, mais on n'a pas les bureaux climatisés. En plus, on a une défaillance au niveau des transports. D'ailleurs, la région Île-de-France a appelé à éviter de prendre les transports car les rails ne peuvent supporter la chaleur extrême. Là-dessus, vous rajoutez les écoles qui sont fermées parce qu'il y fait trop chaud, ou les parents eux-mêmes sont obligés d'amener des ventilateurs, ou même en apportant des ventilateurs, on est quand même à plus de 30 ou 35 dans les classes. Donc, c'est le débat là maintenant qu'on voit qui s'est installé. Est-ce que c'est de la précaution, justement, en disant télétravail, ne prenez pas les transports, restez chez vous, n'emmenez pas les enfants? Est-ce que c'est de la précaution, de la prévention, ou est-ce que c'est de l'impréparation? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Tiens, justement, Jean-Philippe.
Vous parliez des ventilateurs, moi, les enfants sont dans une école privée, et même dans l'école privée, on nous a demandé si on pouvait fournir des ventilateurs. Ça vous montre l'impréparation assez globale du système France dans sa globalité. Donc la canicule, c'est le reflet de ce que vit plus ou moins la France. Enfin, je crois qu'on est d'accord. Je lisais un article avant de venir chez vous ce matin qui explique que le CHU de Nantes, qui va coûter 1,5 milliard d'euros et qui va sortir en 2028, n'a pas été pensé pour être climatisé. C'est juste hallucinant. Voilà. Donc c'est tout ce que moi je combats, tout ce qui me rend fou, tout ce qui fait qu'on s'engage, nous, non pas patron, mais dirigeant de PME également, pour dire que voilà, on marche sur la tête. Donc la canicule aujourd'hui, c'est un hôpital, imaginez, 1,3 milliard d'euros, et pas de climatisation prévue pour le futur CHU de Nantes. Voilà, la France dans
toute sa splendeur.
Dans toute sa splendeur, c'est dramatique.
Barbara.
Mais oui, mais il y a deux niveaux quand on est face à la question du réchauffement climatique, parce que là aussi, alors on est dans un pays dans lequel on a eu un président, Monsieur Chirac, qui nous a expliqué. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et ça, je crois que c'est la caractéristique des hommes politiques français, en particulier dès qu'ils nous dirigent, c'est de faire des constats et de se battre les flancs. Et ensuite, derrière, il se passe rien. Parce que c'était très juste que disait Monsieur Chirac à l'époque. Tout a été mis en place. On a fait des commissions et des congrès et des agences de l'environnement et des agences de ceci et des agences de cela et des conventions citoyennes et des COP 10, 12, 22, 27, 28.
Et des agences.
Et pour autant, on a deux volets, deux niveaux d'adaptation à la question du réchauffement climatique. Premièrement, il y a gérer l'urgence sanitaire, et ça, la France, il faut le dire, est relativement bonne. Pourquoi ? Parce que la canicule de 2003 a été tellement calamiteuse que l'État n'a pas pu faire autrement que prendre des mesures. Donc du coup, sur ce volet-là, c'est même assez reconnu. À l'échelle européenne, il y a le plan national canicule, il est assez reconnu comme étant efficace parce qu'on a appris quelque chose de 2003. En revanche, la transformation urbaine, la transformation du bâti, qui aurait dû donc découler aussi de 2003, ça c'est pas venu. Et non seulement c'est pas venu, mais il y a d'autres pays européens qui ont avancé, alors que eux ont pas forcément su réagir sur l'urgence sanitaire comme nous on l'avait fait en 2003. Enfin, depuis 2003. Et nous, sur le bâti, rien, de rien, de rien. Et j'ai fait un petit calcul, j'en reparlerai peut-être à la fin, sur si la France devait climatiser au niveau des établissements scolaires, c'est-à-dire environ 50 000 établissements scolaires. Les EHPAD, publics, privés, on est sur 7 500 EHPAD, 600 000 lits à peu près. Et les hôpitaux et cliniques, plus de 3 000. Ça reviendrait entre 22 et 37 milliards d'euros. Donc on voit bien la difficulté, le mur financier, si on l'avait fait il y a quelques années.
Oui, on aurait pu étaler dans le temps.
Toutes ces mesures sont des mesures d'inadaptation et d'impuissance. Et pourtant, alors je veux bien, on met de côté M. Sarkozy, supposons qu'il était de droite, donc méchant, pas écolo. Mais on a eu Hollande, qui nous a mis des Dominique Voinet et tout ça.
Oui, parce qu'Hollande, il avait passé des accords avec les écologistes, voilà. Et donc climatisation, pas voilà. Bon, méchant, climatisation.
Exactement, ouais. Monsieur
et
Macron.
Et Fessenheim, la fermeture de Fessenheim. Bon. Voilà,
Macron, grand progressiste devant l'éternel. Bah écoutez, ça fait 15 ans, il ne s'est rien passé en France, donc la gauche ferait bien de se regarder. Elle, avant d'aller critiquer ceux qui disent des plans clim, il ferait bien de regarder eux, qu'est-ce qu'elle est leur bilan en 15 ans. Rien, à part les ZFE et de casser les bonbons à ceux qui bossent au gasoil. Ça, ils sont bons. Par contre, excusez-moi, ils sont au pouvoir. Hein. Donc, ils viennent pas nous dire on n'y peut rien. C'est eux qui ont les manettes depuis 15 ans.
Avant de donner la parole, Abel, parce que tu disais, Jean-Philippe, c'est vraiment tout ce qui fait la France. Mais c'est quoi? C'est l'omniprésence et l'omnipotence de l'État et finalement, l'État qui ne peut pas agir.
Je résume ce que dit Barbara. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de projection, pas de vision et pas de projet. Voilà. En fait, nous, si on a un problème dans nos bureaux, dans nos hôtels ou dans nos restaurants ou n'importe quoi et qu'on se rend compte qu'il y a un problème avec la climatisation, on va investir, on va mettre les moyens, on va prendre un crédit, on va faire ce qu'il faut et on va se projeter pour que l'année prochaine, le problème soit réglé. De manière claire et large, ce dont tu témoignais, c'est le drame français. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune projection, aucune vision. Ouais, de droite comme de gauche.
Oui.
C'est-à-dire de manière claire et nette. Donc, on va gérer le problème au quotidien. On va demander à tout le monde des ventilateurs. On va essayer de s'entraider. On va dire aux gens, ne venez pas bosser, gardez vos enfants. On va trouver toutes les solutions du monde pendant 10 jours. Il fait 42 degrés, 46, 48. Par contre, le problème se reposera. Et je reprends, pardonnez-moi d'insister, mon exemple de l'hôpital. Voilà. Ça, même la
230 000 carrés. Le CHU de Nantes, c'est 230 000 mètres carrés. Ouais. Ils n'ont pas prévu la climatisation, effectivement, sur l'ensemble du bâtiment. Ouais. Je crois que c'est un tiers.
Ça devrait juste nous, voilà. Là, on n'est même plus dans le passé. Ouais. On est dans le futur. C'est-à-dire, même le futur n'est pas pensé.
C'est de la compétence des dirigeants, alors, c'est quoi?
Si vous voulez mon avis sur ce que je pense de la compétence de nos dirigeants, on pourrait y passer 3 heures. Mais oui, je pense qu'en fait, je revenais de Chine et il y a du pour, il y a du contre, mais il y a un sujet dans ces pays-là, il y a une vision, il y a un projet. Et tous les Européens que j'ai croisés qui travaillent là-bas disaient Chine 2030, Chine 2035. Comment on climatise tout? Comment on robotise ça? Comment nous, on n'a aucune vision, aucun projet. C'est ça, moi, que je condamne, ça qui me rend fou. On voit tous les politiques aujourd'hui, encore une fois, droite comme gauche, on est dans le cas par cas, on est dans le day-to-day, mais on n'a pas de projection. Et si nous, entrepreneurs, petit ou grand, peu importe, on n'a pas de vision, on est mort, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça le drame français qu'il faut absolument corriger. Il faut que celui ou celle qui gagne en 27, elle porte un projet, elle nous amène quelque part, à commencer par nos enfants avec l'éducation. Et puis, c'est ça qui me rend dingue.
Tu disais Chine, le plan Chine 2035, et on l'a évoqué hein, d'ailleurs ici.
J'ai visité 40 entreprises, je peux vous dire que
voilà, ça fait fou. On regarde effectivement les secteurs.
C'est climatisé partout.
Ouais, les secteurs dans lesquels la Chine va investir, qui sont les secteurs porteurs d'avenir, etc.
On en parlait tout à l'heure. L'IA à l'école, ça fait longtemps que ça y est en Chine.
Mais c'est pas comme si on avait...
C'est 6 heures par semaine pour les moins de 10 ans, ou déjà quelque chose comme ça.
Il me semble qu'en France...
On les prend juste pour nos petites mains pour fabriquer nos t-shirts.
Jean-Philippe et Abel, il me semble qu'en France, on a...
Ça fait longtemps qu'ils font plus les t-shirts, enfin de moins en moins, mais ils vont déjà dans le futur.
Ils sont sur les high-tech, tout ce qui est high-tech maintenant, la Chine. Mais il me semble qu'en France, on a un haut commissariat au plan. On a chargé d'avoir une vision de l'État. C'était Monsieur Bayrou, d'ailleurs. Et donc, si tu veux, tu peux dire que depuis 2003, la canicule, c'est au commissariat au plan, aurait pu tracer des trajectoires d'investissement.
Tout le monde connaît l'inutilité de ces hauts commissariats. Tout le monde le sait, il y en a d'autres et tout le monde le sait.
Le conseil économique et social, on a rajouté.
Et
environnemental. Ouais. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait? Rien, il fait des rapports.
Mais tout ça, alors, ça me fait penser à une citation de James Freeman Clark qui a été reprise par Churchill. C'était un activiste américain des droits de l'homme à la fin du 19e siècle qui disait « L'homme politique regarde à la prochaine élection, l'homme d'État regarde à la prochaine génération. » On n'a plus d'homme d'État en France. Tu l'as dit, on est devenu champion du monde de la carabistouille, de la gestion de l'urgence. Et en plus, tu posais la question sur la prééminence de l'État dans ce projet. Aujourd'hui, on ne sait plus, avec le millefeuille administratif entre la responsabilité de l'État, des régions, des intercommunalités, des municipalités, des cantons, on ne sait plus aujourd'hui. Et l'autre chose, à chaque fois qu'on aborde ces sujets, tu sais, j'ai souvent des auditeurs, des grandes gueules qui habitent en Afrique, aux États-Unis, dans les Outre-mer, mais ils se foutent de notre gueule en fait. Ils disent, mais nous, on est habitués à la chaleur. Ce qui, pour vous, est une exception, est une urgence, est un danger.
C'est une exception quand même d'avoir des épisodes de chaleur à plus de 40 degrés comme ça.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu le prévoir depuis 2003?
Les rapports existent qui prévoyaient effectivement ces pics de chaleur.
On n'a rien fait. On n'a plus de vision, comme ça a été dit. Et on est là pour gérer l'urgence. Mais quand on gère l'urgence, on crée de la casse et on accumule le retard en réalité. Tu prends le pari, dans un an, on refait le même débat, copier-coller, sur les mêmes causes et les mêmes conséquences.
Pardon. pour préparer l'émission, on nous avait envoyé un article que j'ai lu attentivement. Un assureur, évidemment comme par hasard, un assureur, fait une prospective très 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 inquiétante. On nous dit, au-delà de 30 degrés, la productivité chute fortement. Ah bon ? Mais moi, qu'ils aillent voir au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Corée du Sud, qu'ils aillent voir Shanghai quand il fait chaud, je crois qu'ils n'ont pas de problème de productivité. Qu'ils aillent voir en Afrique, là carrément, il n'y a pas de clim, il n'y a rien du tout parce que les populations sont abandonnées à elles-mêmes par leurs dictateurs. Je crois qu'ils travaillent. Il y a de la productivité, une productivité dont on serait même pas capable aujourd'hui, ici en France. Et donc, cet assureur, il nous dit, ah là là, la France serait la plus touchée sur sa croissance. Comme si c'était une fatalité. Mais il n'y a qu'en France que les choses sont des fatalités. Pourquoi ? Parce qu'on a des hommes et des femmes politiques qui sont fatalistes. On parlera tout à l'heure de l'affaire Liana. Oh bah dis donc, il y a des dysfonctionnements. Oh bah oui, alors on sait pas quoi faire, on se bat les flancs. Oh le niveau baisse à l'école. Oh bah alors là, c'est bien embêtant. Ce n'est que ça. Comment vous voulez que les Français ne deviennent pas dépressifs avec une classe politique pareille ?
Eh bien, on continue la discussion dans un instant avec vous au 32-16. On sera avec Grâce. Elle est vendeuse. Elle nous dira comment elle encaisse cette canicule. Justement, canicule, on a les appels à rester à la maison, à se mettre en télétravail, à ne pas mettre les enfants à l'école. On ferme les écoles, justement. Est-ce que c'est de la prévention, de la précaution ou c'est de l'impréparation? 32-16 pour en discuter avec les GG. Vous êtes avec nous sur RMC, RMC Story. Il est 9h20. Barbara Lefebvre, Abel Bouilly, Jean-Philippe Cartier. Voilà nos trois GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
C'est avec vous, bien sûr, au 32-16 et avec nos grandes gueules, avec nos GG, que l'on parle de la canicule et de la manière dont le pays, et quand on dit le pays, c'est nous, c'est vous, et c'est surtout la manière dont l'État, notre société, vit cette canicule qui était annoncée depuis longtemps, et surtout on tire les enseignements au fil des années. Alors la dernière, qui avait duré 15 jours au mois d'août, c'était la canicule de 2003. Là, celle-là, elle est précoce. Elle est effectivement au mois de juin, avec des températures au-delà de 40 degrés. Et elle en suit déjà une autre qui avait eu lieu là en mai, où on était monté assez haut. Et on s'étonne toujours de voir qu'on est en retard dans nos investissements. C'est ça, aujourd'hui, qui pousse notre réflexion et de dire que, finalement, si on nous demande de pas prendre les transports, de pas envoyer nos enfants à l'école, de se mettre en télétravail dans la mesure du possible, si c'est de la prévention, de la précaution, ou si on est face, comme le dit Barbara, à un mur, toujours, qui est le mur de l'impréparation. Grâce est avec nous dans l'Essonne. Bonjour, Grâce.
Bonjour.
Bonjour. Vous, dans le magasin, comment vous faites, alors?
Bah, on n'a pas de clim.
Et vous avez combien de degrés?
Hier, on était à 35,6.
Et vous vendez quoi?
Des glaces.
Pardon?
Vous vendez quoi? C'est un commerce.
J'en étais sûre. Vous inquiétez pas, on a annulé toutes les commandes pour les animaux.
Ah, parce que vous vendez des trucs pour animaux? Qu'est-ce que vous vendez? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans un magasin d'une animalerie?
Oui, et on a tout annulé.
C'est-à-dire?
Non, ne faites pas un arrêt cardiaque.
Non, mais j'ai pas compris, vous avez annulé quoi?
Toutes les commandes pour les animaux et tous les gens qui viennent pour prendre les animaux, c'est non négociable.
Mais je comprends, bientôt il y a une loi qui va interdire la vente d'animaux en animalerie.
Oui, nous ne pouvons pas vendre des chiens et des chats.
Ah oui, vous êtes sur les rongeurs, les petits lapins et tout ça, là, les oiseaux.
Ah oui, mais là, c'est non négociable.
Et eux, ils ont la clim au moins?
Ah ben, bien sûr, oui.
Alors ça.
Ah oui, donc
alors
c'est
je
vous
suis rassurée, excusez-moi.
Vous, les vendeurs, vous n'avez pas la clim. Du coup, les clients, tout le monde se plaint. Mais pourquoi vous n'avez pas installé la clim?
Bah, elle a demandé ça à mon patron.
Ça coûte trop cher, l'investissement de la clim, c'est ça?
C'est ça.
Ah ouais, mais du coup, c'est c'est un investissement qui est plutôt rentable aujourd'hui de mettre la clim, parce que les clients ne viendront pas, les employés se plaignent. Mais Grâce, on va écouter Magali qui est avec nous, qui est du côté du Loiret. Bonjour Magali.
Bonjour les GG.
Bonjour, bienvenue Magali. Aujourd'hui, est-ce qu'on est face à l'impréparation ou on est dans la prévention plutôt aujourd'hui, alors Magali?
Ben moi je dirais quand même qu'on est dans la prévention, hein, parce que moi je travaille sur un plateau opérationnel du SAMU. Chaque année en fait on tire les leçons d'une canicule pour améliorer sur la canicule d'après. Donc moi je trouve quand même qu'on met en place des choses pour essayer d'améliorer le contexte pour après. Genre, par exemple, on essaye de sortir des statistiques pour voir si ça impacte vraiment les régulations. pour que à la saisonnalité après on mette du personnel en plus, des effectifs. Moi je trouve quand même qu'on travaille sur de la prévention. Mais après,
je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que les leçons ont été tirées de 2003 mais pas sur l'urbain.
Terminé, Barbara.
Allez-y Magali.
En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il faut toujours qu'on rende responsables nos politiques, nos gouvernements. Il y a des choses qu'on peut faire individuellement qui coûtent zéro, qui pourraient être mis en place là, maintenant, genre adapter son comportement, suivre les messages de prévention qu'on relaie régulièrement sur les antennes télévisées et les antennes de radio. Et les gens, en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est renoncer à leurs activités quand les températures sont modérées ou quand les températures sont excessives à 41 degrés. Personne ne change son comportement. Les gens
Mais Magali, dans un collège qui est une passoire thermique construite dans les années 70, vous voulez que les élèves y régulent comment ?
3300 milliards de dettes, on ne peut pas tout changer.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est
des priorités.
Qui est-ce qui l'a fait, la 3300 milliards de dettes ? C'est Monsieur Macron, je suis désolée. C'est pas moi qui les ai fait, les 3300 milliards de dettes. C'est pas moi qui ai distribué des chèques. J'en ai même pas bénéficié des chèques.
Je veux réagir à ce que dit Magali. Juste, bonjour Magali. J'entends le point, et le politique n'est pas responsable de tout, et la responsabilité individuelle doit primer. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, où je rejoins Barbara 200%, c'est qu'on en est là parce que il y a un constat de 20 ans d'inaction, peut-être un peu plus. Et je le vois avec mes enfants à l'école, des écoles avec un programme de climatisation qui repousse d'année en année, les hôpitaux dont on vient de parler, un problème dans les EHPAD. Enfin, c'est un sujet majeur aujourd'hui, la climatisation. Pardonnez-moi, juste termine. C'est un sujet purement politique. Ce sont des décisions qui doivent être prises. Ce sont des investissements par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas un boulot formidable et qu'il n'y ait pas les gens qui travaillent.
Je ne trouve pas que ce soit un problème uniquement politique. C'est un problème qui concerne tout le monde.
Les gens. Sur les investissements des écoles et des hôpitaux, c'est pas moi qui peux décider de le faire.
Il n'y a plus d'argent.
La faute à qui s'il n'y a plus d'argent ?
Les gens veulent pas reculer l'âge de la retraite, les gens ne veulent pas faire ceci, les gens ne veulent pas faire cela.
Totalement d'accord sur ce point.
Eh bien, l'État n'est pas obligé de céder. Voilà. Les gens ne veulent pas travailler plus longtemps. L'État n'est pas obligé de céder comme il a fait. Il a cédé sur tout. Il ne lui reste plus rien à Macron dans son bilan.
Et puis, Magali, en réalité, 2003, ça fait 23 ans maintenant. On aurait peut-être pu anticiper les choses. Pourquoi attendre 2026 pour se dire qu'il faut s'adapter ? Parce que même ce que vous appelez prévention, c'est plus de la gestion de l'urgence en réalité. Chaque année, on gère de l'urgence.
C'est un changement de comportement auquel on devra faire face. Parce que, ok, on va climatiser tout. Allez, on met de la clim partout. Mais les extérieurs, personne ne va pouvoir les climatiser. Et les gens, ils continuent à aller faire leur footing à 14h. Moi, j'ai un mec qui m'a appelé à 14h. Il était parti pour une rando. Il m'appelle, il me dit, madame, je suis épuisée, je peux plus avancer.
Non, mais ça, des abrutis, il y en aura toujours.
Des abrutis, il y en a partout.
30% de l'activité supplémentaire sur les plateaux techniques et vous seriez effarés.
Mais vous avez raison.
On n'a pas besoin de la canicule pour être effarés, on est effarés toute l'année.
Et Magali, là, on est tout à fait d'accord avec vous. Il y a ce qui est du domaine de, et on va appeler ça de l'irresponsabilité individuelle, et puis après, il y a ce qui est du domaine de l'État. C'est pour ça, Magali, quand on dit de l'État, ou des collectivités locales, ou du pouvoir régional. J'entendais ce matin des témoignages, plutôt je voyais sur les réseaux sociaux, des gens qui filmaient dans les bus. Tu sais, dans les bus.
J'ai vu.
La température, il y a un chauffeur qui disait elle dépasse les 40 degrés dans les bus. Ça encore, tu modernises les bus à long terme. Là, on les a passés à l'énergie propre, les bus. Ouais. Donc, ça prend du temps. Tu changes ta flotte des bus, mais c'est un investissement. Tu la climatises. Ça ne veut pas dire. Alors, j'entends toujours le raisonnement dire oui, si c'est pour l'utiliser trois fois dans l'année. Mais les trois fois où tu as besoin, tu l'utilises pas, mais les jours où tu en as besoin, plutôt que d'avoir une personne âgée ou un enfant qui se trouve mal dans ton bus, tu as la clim à ce moment-là.
Non, mais surtout qu'on est en train, évidemment, de stopper, d'abîmer l'économie. Parce que moi, je me pose la question, on oublie à quel point les gens subissent. C'est-à-dire quand on vous dit à votre compagne, à une maman, à n'importe qui, à tous nos collaborateurs, demain il n'y a pas école. Mais comment font les gens ? Moi, j'ai la chance de pouvoir m'organiser. Peut-être un papa, qui est une maman qui peut s'organiser et autres. Mais quand tu ne peux pas t'organiser, c'est toujours les gens qui subissent. Donc c'est super, la responsabilité individuelle. Mais parce qu'il fait trop chaud dans les écoles, il y a des gens qui travaillent pas, c'est du PIB en moins et c'est encore de la dette en plus. Donc c'est l'histoire un peu sans fin.
Ça a été chiffré. Je sais pas si le calcul est bon, mais jusqu'à 2030, on parle de 210 milliards d'euros de manque à gagner pour l'économie. Alors je sais pas si le chiffre est fiable.
Et tout tout ça, et tout ça, et tout ça après un mois de mai qui est un mois quasiment non travaillé, je précise.
Faut qu'on se rende compte du processus de tiers mondialisation dans lequel on est en train de s'enfoncer.
Pas juste.
En été, on est ralenti. En hiver, on est ralenti aussi. Souviens-toi, il y a quelques mois.
Au mois de mai, on
a fait des émissions parce qu'il faisait trop froid, il y avait trop de verglas, il y avait trop de neige, et on finit par devenir la risée du monde. Donc, on ne sait plus vivre en réalité. Donc oui, il y a la responsabilité citoyenne de chacun, mais les politiques, je suis désolé, c'est à eux d'organiser la société, sinon on ne se présente pas à des élections.
Magali, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Et franchement, bon courage au quotidien avec la plateforme de régulation du SAMU, parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple pour vous tous les jours. Mais merci d'avoir témoigné, Magali. Bonne journée.
Et elle a bien raison, parce que moi, dimanche, alors qu'il faisait une chaleur de bête, je vois deux gars à vélo faire du vélo sportif avec le casque. Il était 15h, il faisait une chaleur de malade. Je me suis dit, mais ça c'est inconscient, parce qu'effectivement, et je suis d'accord avec Magali, c'est Nicolas qui paye. Hein. Oui. C'est nous qui payons les secours.
Mais il y a aussi la responsabilité de l'État. Je reviens au drame avec, je crois qu'il y a eu pas mal de noyages. Je prends le canal Saint-Martin. À 20h, il devait être fermé. Ben, vous voyez qu'à 22h, tout le monde sautait dedans. Donc il y a aussi un problème d'autorité qui fait qu'à un moment donné, il faut dire stop et ça s'arrête. Exact. Donc ça s'appelle de la responsabilité de l'État, comme nous-mêmes, nous sommes responsabilité de nos entreprises. C'est pareil.
Anthony, bonjour. Anthony Duval d'Oise, bienvenue.
Bonjour.
Responsable d'exploitation. Bonjour. Donc on est dans la prévention, la précaution ou l'impréparation, alors, Anthony?
Alors moi, je dirais plutôt l'incompétence. Mais allez-y. Clairement. Parce que, de ce que j'entends et puis de ce que je vois, surtout, on voit que le français, lui, il se débrouille tout seul. Ça va faire quelques années quand même. Hein. Ouais. Donc, il amène des ventilateurs dans les écoles. Mmh. Les mêmes écoles où, d'ailleurs, on nous proposait il y a moins de 3 mois de raccourcir les vacances d'été. Donc, il fallait laisser les enfants jusqu'au 15 juillet, jusqu'au 15 août.
Oui, vous avez raison.
Alors qu'à partir du 31 mai, il fait 50 degrés dans les écoles. Et
oublié.
Donc, ça, c'est de l'incompétence. C'est pas de l'impréparation. Ça fait quand même 20 ans que le français, quel qu'il soit, il paye des charges, il paye des impôts, il en paye beaucoup, pour que justement l'État puisse avoir une vision à long terme et se préparer à tout ça. Il y a le fameux millefeuille administratif dont on parle tout le temps, avec des sociétés un peu partout qui sont censées avoir une vision, des commissions, des machins, donc ils sont payés, puis c'est pas rien, quoi. Ouais. On travaille quand même un jour gratuit pour les vieux depuis une dizaine d'années, suite pour mettre la clim dans les EHPAD, c'est toujours pas fait. Enfin, c'est des milliards. L'argent, il y est. Mais il est dépensé par les 600 000 élus, il n'est pas dépensé par les Français, parce que si on faisait ce que font tous les Français tous les jours, savoir amener de l'eau à votre voisin, fermer les volets, on n'aurait pas de soucis.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, Anthony...
Plus qu'on a une classe politique qui est totalement incompétente et surtout ne subit aucune conséquence, on le voit dans toutes les affaires.
Mais voyez, Anthony, vous avez raison, parce qu'il y a ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, dans notre responsabilité, et je pense que le cas des écoles est le plus flagrant aujourd'hui, c'est le plus parlant, c'est-à-dire que vous avez des parents, et d'ailleurs souvent en liaison avec les profs qui disent, on a les enfants, est-ce que vous voulez qu'on vous amène des ventilateurs, apporte, j'ai entendu même une dame qui a dit, je sais plus dans quel département, si vous voulez je vous aide, j'apporte des rideaux. Vous savez, et j'ai entendu à Nantes, des gens sont venus avec les ventilateurs, les prises pour les ventilateurs n'étaient pas aux normes. Et on a dit, non, ne branchez pas les ventilateurs, les nouveaux ventilateurs sur pied, etc. Bon. Et ils leur dit, ne les branchez pas, parce que si jamais il y a un risque de court-circuit ou quoi que ce soit, ça va nous retomber dessus. Donc vous dites, 2026, à l'heure où les gens peuvent commander en 24 heures en Australie via le téléphone, où la Chine, comme tu l'as dit Jean-Philippe, est en train de tout miser sur l'high-tech, où tout avance de manière ultra rapide, on en est encore arrivé avec un ventilateur et une prise en dire, ah mince, c'est pas la bonne, quoi. Tu vois,
je défie quiconque de venir voir l'état des PC que nous utilisons.
Les ordinateurs.
Oui, parce que nous, on est obligés maintenant, tout est informatisé pour faire l'appel, etc. Donc déjà, le temps que tu te connectes, l'ordinateur, il tourne 5 minutes, 5-10 minutes, avant qu'il s'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, il bug. Donc toi, pendant ce temps-là, ça fait déjà un quart d'heure que le cours a commencé. T'as toujours pas fait l'appel. Non, mais on a des ordinateurs qui datent des années 2000, je pense, à l'Éducation nationale. Mais c'est normal en même temps. Ça en fait tellement par classe. Et moi, ça, je le comprends. XP. Moi, je le comprends très bien. C'est des dizaines de milliers de PC qu'il faut avoir. Mais derrière, la personne qui vient réparer, elle est prise à aller voir la tête des multiprises. Moi, je vous dis, hein, des fois, t'as pas envie d'aller mettre les doigts dans la prise parce que tu vas prendre du jus. Hein.
Anthony, je vous remercie d'avoir été avec nous, de votre témoignage. Vous aussi, Anthony, Jean-Philippe, tu voulais réagir à ce qu'on disait là sur.
C'était pas hors sujet, mais tu me faisais penser à la Chine et je repensais à ce voyage où, pendant ce voyage, je me souviens des informations qui circulaient sur mon iPhone venant de France et c'était les boulangers, les artisans, ou peu importe quel type de métier, vont-ils pouvoir travailler le 1er mai? Et ça m'a marqué parce que quand t'es dans ce pays en train de voir tout ce qui se passe et l'avancée à tous les niveaux technologiques, et que nous, on en est encore là. Je me dis, c'est un résumé finalement de tout ce qu'on se dit. Ça englobe tous les sujets qu'on va pouvoir traiter aujourd'hui. C'est dramatique. C'est quand tu reçois le 28 avril, l'info du jour, c'est des politiques qui se battent pour savoir si les gens, comme un boulanger, vont pouvoir travailler le 1er mai en France. T'as le résumé de tout ce qui a été raté depuis 20 ans aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se bat. Moi, ça part d'une tribune que j'ai faite il y a quelques mois où je suis dans le Figaro. Je disais, je me bats ou je me barre. Et vraiment, moi, je suis un amoureux de la France, je suis un fou de mon pays, je suis autodidacte, j'ai tout construit ici, et je suis arrivé à un point où je me dis comment on a pu en arriver là. Et tout ça, c'est des exemples qui rendent dingue, mais dingue.
Si, moi, je sais comment.
Je pense qu'autour de la table.
Un de vote.
Non, mais bien sûr, oui. Mais, encore une fois.
On y a cru souvent.
Il y a eu des promesses non tenues. Mais la vérité, il faut le dire aux gens, il faut le dire aux Français, on est totalement déclassé. Voilà, et on est totalement déclassé. Et ce qui me rend le plus inquiet, moi, à 51 ans, c'est de voir que tous les gens qui ont un poil de talent et qui ont 20 ans, 22 ans,
de vrai,
ils s'en vont.
Exactement.
Tous.
Bien sûr.
Et moi, j'en ai plein, j'en finance plein, ils s'en vont tous.
Bien sûr.
Voilà. Et ça, c'est un constat absolu de l'État France. Voilà. Alors, ils se regardent tous dans le miroir, nos politiques, notre président, c'est formidable tout ce qu'on a fait. C'est totalement faux, inexact. Donc, il y a un gros raté, il faut qu'il y ait un gros changement.
Les cerveaux qui fuient, ça, c'est massif. Mais quand vous allez voir le niveau de ceux qui fuient pas, quand ils vont arriver à l'âge de travailler,
On est d'accord sur ce point, mais il est impossible d'imaginer qu'en 2027, il n'y ait pas un projet de Société France qui se construise. Sinon, en tous les cas pour moi, ça sera le départ de France.
Bien utopiste,
mais je suis un optimiste, j'ai envie de croire qu'il va y avoir des prises de conscience. Mais le rêve français, il existe, ce pays, il est formidable. Ses citoyens ont des ressources incroyables. Mais en fait, je vais vous dire, c'est
plus
comme...
Plus fort
c'est
que
comme,
le rêve français, il y a comme, le système français, non, mais t'inquiète, qu'il est bien verrouillé.
Mais je sais, on essaie de me démotiver à prendre la parole et à le dire, mais j'ai envie de croire que la France a encore des ressources et que c'est un pays qui peut rebondir et j'y crois encore quelques semaines.
Quand tu écoutes Anthony, ce qui est marquant, c'est quoi? Tu entends à quel point il est blasé, en fait.
Mais tout le monde.
Et pourtant, il a envie d'y croire.
Il est dépité.
Mais oui, et puis les jeunes. Aujourd'hui, tu penses que les jeunes, ils ont envie de se dire, je veux investir en France. Il n'y a plus de rêve français. Désolé de te contredire.
Moi aussi, je parle le recréer.
Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un potentiel. Voilà. C'est ça la différence.
C'est ce que je dis. Je suis d'accord.
Les jeunes, ils veulent se barrer aujourd'hui. C'est terrible.
On a un dernier rappel qui vient du Pyrénées-Atlantique, celui d'Isabelle. Bonjour, Isabelle.
Oui, bonjour les GG.
Bienvenue, chef d'entreprise dans le secteur médical, dans le sud-ouest. Vous devez bien ramasser, là, vous, en ce moment aussi.
Ah oui, on ramasse bien, mais l'avantage, quand on est commercial, on a la clim dans la voiture, quoi.
On se console comme on peut.
Je suis commercial depuis des années.
Oui.
Et je me demande comment on faisait dans les années 80, 81, quand on n'avait pas de clim et qu'il faisait très chaud.
Oui. On ouvrait les fenêtres et puis ça allait.
Et, voilà. et
on était dans la voiture de nos parents, crevait de chaud, et puis on est habitué.
Et pour autant, on allait travailler. Voilà. Bon, ça c'était ce que je voulais dire en aparté. Moi, vous voyez, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'effectivement, la France est incompétente, incapable de prévoir quoi que ce soit. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le sud-ouest, actuellement, je vois des projets de construction un petit peu partout.
Ouais.
Le sud-ouest, comme chacun sait, ça peut être très chaud, mais c'est aussi très pluvieux. Est-ce que vous pensez que c'est sur ces nouvelles constructions, on a des panneaux photovoltaïques obligatoires? Non. On met encore des chaudières au gaz alors qu'en 2030, on n'aura plus le droit d'en mettre. Il n'y a pas de récupérateur d'eau de prévu. Ouais. Et on continue à avoir de l'eau potable dans les WC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et on continue à peindre les routes en noir. Absolument. Alors qu'il faudrait les peindre d'une autre couleur.
Voilà, donc si vous voulez,
et les toits également.
Ils ne font rien. J'ai déménagé récemment, j'aurais voulu mettre une clim dans l'appartement, c'est une copropriété, et tout le monde dit « Oh ben non, parce que ça fait du bruit, mais les clims d'aujourd'hui, elles feront nettement moins de bruit qu'avant. » Mais enfin bon, toujours est-il que rien n'est prêt en France pour aller dans l'avenir, et je rejoins votre intervenant. Moi, j'ai mon fils en Irlande, ma fille en Suisse. Ils sont très bien. Et je vais partir en Italie également.
Et ils vont pas rentrer.
C'est sur cette note d'optimisme que nous terminerons provisoirement notre première discussion. Et je remercie Isabelle d'avoir été avec nous. Je vous embrasse, Isabelle. Gestion de la canicule. Est-ce que nous sommes dans la prévention ou dans l'incompétence? Eh ben voilà, l'incompétence, c'est exactement ce que disait Isabelle, à plus de 87%. Dans un instant, on s'en fout, et à 10h, vous prendrez la parole à propos du scandale Liana. Deux gendarmes mutés, un magistrat sanctionné. Est-ce que ce sont des décisions rassurantes qui nous redonnent confiance, justement, dans la décision, les prises de décision du pouvoir politique? C'est à 10h que... Oh bah dites donc, ça commence bien. C'est à 10h qu'on en parlera au 32-16. Dans un instant, on s'en fout pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules, c'est avec vous, c'est tous les jours, c'est au 32-16 que vous prenez la parole, et c'est avec les grandes gueules ou dans un des autres shows d'RMC que vous gagnez la prime de match aussi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show, et avec Anthony, il y avait 67 500 euros de prime de match. Écoutez.
Oui, allô?
Allô, Anthony, tu t'es inscrit à un jeu, quel est le montant de la prime de match?
Laisse-moi réfléchir. 67 500.
T'as gagné, Anthony.
Oh putain,
67 500, mon poulet.
Oh merci les gars.
Et voilà, Anthony, jeudi dernier, il a gagné 67 500 euros. C'était la prime de match qui grossit à chaque but, 500 euros qui arrive. Là, en ce moment, on en est à 36 500 euros ce matin. Ça y est, c'est le top inscription. Vous envoyez but par SMS au 732-16, but par SMS au 732-16. Dans la journée, dans l'un des shows d'RMC, on vous appelle. Si c'est gagné, faut donner 36 500 euros. Bah, si aujourd'hui c'est pas gagné, c'est pas grave. Il y a encore des matchs demain soir, enfin ce soir, dans la nuit. Et à chaque fois, à chaque but, ça prend 500 euros. Bah, allez savoir jusqu'à combien elle va monter. Donc là, pour le moment, à battre 67 500 euros. Mais 36 500, c'est déjà pas mal. À vous de jouer, à vous de gagner. Allez, si on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. France Pierron, vous savez la journaliste de la chaîne L'Équipe qui a provoqué un tollé hein, après ses propos sur la présence des pères à l'accouchement dans l'émission L'Équipe de Choc. Eh bien la sanction est tombée. La direction de la chaîne L'Équipe l'a retirée de l'antenne jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la semaine prochaine. Donc alors qu'elle s'est pourtant excusée, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
On ne s'en fout pas du tout.
Ah bon? Abel? Mon cher Jean-Philippe.
Je m'en fous un peu, si, clairement. Bon.
Barbara, pourquoi tu t'en fous pas?
Oh bah, comme quoi, ça sert à rien de s'excuser. La preuve, elle s'excuse. Allez, dégage quand même. Non mais, qu'est-ce qu'elle avait dit de grave? Elle donne son avis.
Elle a dit que l'accouchement, c'est un moment dégueulasse et que le père ne sert à rien pendant l'accouchement.
Déjà, dégueulasse, j'en sais rien, mais enfin, c'est pas non plus un moment... voilà. Quand tu le vis, t'as surtout envie qu'on te foute un peu la paix. Et c'est vrai que parfois, je ne dis pas tous les hommes, hein, mais certains pères sont plus, excusez-moi, des boulets quand
t'es
en train...
Ça sent le vécu.
Non, pas forcément, mais t'es là, t'en peux plus, t'en as ras le bol. Allez, respire. Ah, ça va aller. Oh, machin. Bon, c'est bon, laisse-moi tranquille 2 minutes. Donc voilà, je ne dis pas que les hommes n'ont rien à faire dans les salles d'accouchement, mais en tout cas, je pense qu'on a le droit, en tant que journaliste, de donner son avis... L'émission était une émission un peu un peu grande gueule, était là, elle exprimait
elle
les choses avec
gueule, hein.
Et on la vire pour ça, on la met en suspension pour ça, mais c'est vraiment n'importe quoi, vraiment ce pays. On se posait quoi la question la semaine dernière?
C'est une émission d'opinion, L'Équipe de Choc, hein.
Et elle a donné une opinion. Il y a des opinions
parce qu'elle a touché un tabou. Le
oui,
tabou c'est celui de l'accouchement.
Mais bientôt faudra que les hommes accouchent.
Alors ça a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux,
mais on s'en fout des réseaux sociaux.
Je pense que L'Équipe s'est dit, oh là là, dans une émission de sport où on parle de foot, on va avoir des associations qui vont nous tomber dessus.
Les réseaux sociaux et la susceptibilité des associations de gnagnagna qui voudraient quoi? Que les hommes accouchent aussi? Qu'est-ce qu'il faudrait que les hommes fassent pour être davantage dans l'empathie avec une femme qui accouche?
Il n'y a pas eu d'association de pères qui a gueulé contre elle. Donc effectivement, c'est une émission de sport. Donc le débat a duré un certain temps en plus.
C'était en référence à un joueur qui voulait quitter la Coupe du Monde pour aller assister
assisté à l'accouchement de Jérémy Doku, justement, qui est belge et qui joue à Manchester City. Donc le débat, peut-être qu'il a allé trop loin, mais suspendre la personne, c'est d'une hypocrisie sans nom. C'est-à-dire que le dictat des réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'association de pères ou de pères célibataires qui ont dit c'est scandaleux. En fait, on s'en fiche totalement. C'est un non-sujet. Donc c'est, aujourd'hui,
ce ne sont pas des propos répréhensibles par la loi.
Oui, mais aujourd'hui, on ne sait plus comment agir. Donc draguer une fille, tu le fais plus parce que tu vas être accusé de viol. Parler de la famille, tu ne le fais plus parce que
non,
mais je fais exprès. Je fais exprès d'aller dans l'extrême. C'est-à-dire, on ne sait plus comment agir sur les questions sociétales. En réalité, c'est un non-sujet. Et la direction de l'équipe a été honteuse sur cette décision.
Bien sûr, continue à
solidarité avec France Pierre.
Bon, les GG. On enchaîne. Un agent de propreté de la ville de Paris, filmé en train de pousser des déchets dans le canal Saint-Martin au lendemain de la fête de la musique. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Philippe ?
Je l'ai pas vu la scène, pardon.
Bah, on va la montrer.
Mais si vous la montrez, rien qu'à la lecture de ce que vous me racontez,
ça t'intéresse quand même.
Bah évidemment, c'est scandaleux, c'est un drame.
Abel.
On s'en fout pas du tout.
Barbara.
Non, on s'en fout pas.
La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Hein. 3 millions de vues en quelques heures, ce qui a obligé le maire de Paris à réagir. Hein. Cette action ne correspond pas à la procédure habituelle, justement pensée pour éviter que ces projections de déchets ne tombent dans l'eau. Emmanuel Grégoire qui rappelle que des bateaux nettoyeurs sont mobilisés aussi pour ramasser les détritus dans le canal Saint-Martin suite à la nuit de la fête de la musique. Mon cher Jean-Philippe.
Ah, désolé que je vous dise, sur la fête de la musique, je pense que là, par contre, j'ai vu beaucoup de vidéos circuler qui font état du carnage de la ville de Paris. Mais je pense que ça, vous les avez peut-être vus, mais j'ai halluciné. J'ai notamment un ami commerçant à Paris qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé une photo de la rue dans laquelle il y avait 14 bagnoles cassées et une rue d'une dégueulasserie absolue. Donc la fête de la musique qui était festive, joyeuse, super. Voilà, c'est devenu un moment de guérilla, comme souvent, comme beaucoup. Voilà, et je veux pas faire de polémique en disant ça, mais on ne sait plus s'amuser, on ne sait plus fêter, on ne sait plus passer un bon moment.
Voilà, pour ceux qui sont devant un RMC
Story. Que ça soit, voilà, donc
tu
c'est.
Vois, on voit là.
Alors, si en plus l'agent de propreté s'y met, alors là, c'est sûr qu'il n'est pas gagné.
On voit la voiture, tu sais, la petite voiturette soufflerie qui passe sur le canal.
Et puis, qui s'est baigné hier soir.
Et puis, au moment, et il pousse effectivement avec le jet d'eau, il pousse les ordures, les saletés du côté du canal Saint-Martin.
Bon, voilà, c'est un bon résumé de la ville de Paris.
Bah oui, mais c'est aussi peut-être.
Et c'est un riverain qui a filmé, qui habite là, qui dit c'est pas possible. C'est simplement du bon sens et de l'intelligence. Qu'est-ce que vous foutez, les gars?
Mais ça s'appelle l'agent municipal qui en a rien à foutre. Ouais. Voilà. Qui est là, qui fait son boulot avec un mépris. Même pour la ville dans laquelle il le fait. Moi, j'aimerais bien que ce monsieur vienne lui faire ça dans son appart. Là, je viens puis je lui jette tous les. Mais il y a un autre problème. Hein. Vous avez vu l'état de la saleté? Parce que là aussi, il y a jamais assez de poubelles.
C'est
les
vrai.
Poubelles à Paris, c'est un cauchemar. L'autre fois, j'étais à Paris, malheur.
Ouais, mais là, avec une telle influence, c'est impossible, pardon. Avec une telle influence le soir de la fête de la musique.
Excuse-moi, Naïs, je suis pas d'accord avec toi. Quand il y a une fête de la musique, tu amènes des bennes. D'accord? Tu sors les bennes directement, tu mets les bennes. Moi, quand je vais au parc à Versailles, il n'y a pas de poubelles régulièrement. Par contre, régulièrement, il y a les immenses poubelles où on sait qu'on va marcher 50 mètres, mais il y aura une grande benne. Quand il y a une fête comme la fête de la musique, tu restes pas avec des pauvres poubelles à deux balles avec des sachets en plus percés par les rats, et les rats, ils ont eu raison, ils se sont donnés à cœur joie, parce que les dégueulasses, c'est qui aussi? C'est ceux qui jettent tout leur détritus.
La première des responsabilités, c'est celle-là.
Voilà, mais l'agent municipal, j'aimerais bien qu'il nous explique quel est son sens de la propreté et de l'intérêt général.
David Béliard, qui était invité hier, qui est adjoint et qui est maire du 11e arrondissement, quand je lui dis on ne trouve plus de poubelles dans Paris, il me dit c'est pas vrai, il y en a.
Non,
il n'y a pas de poubelles. Et quant à Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, il a réagi à cette vidéo où on voit donc la voiturette souffleuse qui passe et l'agent derrière et qui envoie à la fois d'un côté contre le mur et de l'autre dans le canal Saint-Martin. Et il a dit, on va se renseigner, ça ne reflète pas le travail des agents municipaux et on saura prendre des sanctions. Bon, on verra.
Abel. Oui, mais on est encore dans l'hypocrisie. Évidemment que c'est scandaleux, qu'il n'a pas à le faire, qu'il doit être sanctionné. Un, il n'y a pas assez de poubelles, et c'est pas la première fois dans l'histoire de Paris que ça arrive, hein. Pardon. Et ça n'arrive pas que pendant la fête de la musique. Donc, il y a l'irresponsabilité de l'agent, mais il y a l'irresponsabilité de la ville de Paris. Il n'y a pas assez de poubelles, il n'y a pas assez de bennes, et c'est pas la première fois que des agents se retrouvent avec ce dilemme. Est-ce que je fais bien mon travail, ou est-ce que je fais rapidement pour pouvoir passer à autre chose? Parce que la masse de travail que ces gens, ils ont, faut rappeler, métier que personne n'a envie de faire aussi, hein. Faut quand même le rappeler, c'est pas évident. Donc, avant de penser à la sanction, chose qu'il faudra faire, je pense que la mairie de Paris doit faire attention à mettre des meilleures conditions de travail et plus de poubelles dans Paris, ça sera mieux.
Allez, dans un instant, merci Anaïs, avec les GG, avec les grandes gueules, le scandale Liana, deux gendarmes mutés, un magistrat sanctionné, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, c'est-à-dire le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont voulu montrer que le rapport avait été vite établi, que les sanctions ont été vite prises. Du coup, est-ce que ça nous redonne confiance quand même ou pas, ou est-ce qu'on est dans la politique de la com et du bouc émissaire? C'est au 32-16 que ça se passe. Restez avec les GG, avec les grandes gueules, Abel Boyi, Barbara Lefebvre et Jean-Philippe Cartier, petit nouveau aujourd'hui, chef d'entreprise, investisseur, fondateur du mouvement Le Pouvoir de l'Action.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.